RCF. RCF, les racines du présent.
Bonjour à tous. Bienvenue dans notre studio de RCF pour cette nouvelle édition des Racines du Présent, toujours en partenariat avec le quotidien La Croix. Depuis plus d'un siècle, ils influencent à notre insu nos comportements et nos attitudes, ils fabriquent le consentement ou le dissentiment, ils font et défont les élections, ils persuadent des nations d'entrer en guerre, ils défendent des intérêts industriels. On les appelle des spin doctors, des maîtres du faire croire, ou encore des ingénieurs de l'âme humaine. En tout cas, ils ont fait profession de nous manipuler pour servir des projets politiques, des projets industriels, commerciaux, et en tout cas, ils façonnent ainsi le monde dans lequel nous vivons. Aujourd'hui, les racines du présent vont remonter le cours de l'histoire de ces techniques, dites de manipulation ou encore de persuasion clandestine. David Collomb, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes agrégé d'histoire, vous enseignez à Sciences Po Paris l'histoire de la propagande et des techniques de communication persuasive. Votre dernier livre s'intitule « Les maîtres de la manipulation, un siècle de persuasion de masse » et c'est publié aux éditions Talendier. Je signale que vous avez reçu en 2020 le prix Jacques Ellul pour votre précédent ouvrage intitulé lui « Propagande, la manipulation de masse dans le monde contemporain ». C'était publié chez Belin. Avec vous donc, David Collomb, à travers votre travail et les enquêtes que vous menez, nous allons explorer les racines de ces puissances de persuasion de masse.
Les racines du présent. Frédéric Mounier.
Les racines du présent, aujourd'hui, nous allons remonter l'histoire d'un siècle de persuasion de masse en compagnie de l'historien enseignant à Sciences Po, David Collomb, à partir de son livre « Les maîtres de la manipulation » publié chez Talendier. Alors, je voudrais commencer par remonter l'histoire avec vous, David Collomb. Vous nous expliquez que la propagande est la fille de la démocratie. C'est-à-dire que, si je vous ai bien lu, si je vous ai bien compris, l'une et l'autre sont indissociables et qu'en tout cas, la propagande, contrairement à ce qu'on pourrait croire au premier abord, n'est pas le propre des régimes autoritaires. Comment expliquer ce paradoxe, David Collomb ?
Ce paradoxe s'explique par le fait que les régimes autoritaires ont d'autres outils que la propagande pour agir sur les comportements et les attitudes des individus. Concrètement, ils peuvent agir par la terreur, la contrainte, alors qu'en démocratie, en principe, c'est par la persuasion douce que l'on doit agir sur les comportements des individus. Et c'est la raison pour laquelle la propagande est née à Athènes. C'est la raison pour laquelle, surtout, les maîtres de la manipulation au XXe siècle sont pour la plupart des gens qui vivent en démocratie.
Alors on va les passer en revue. Expliquez-nous peut-être pour commencer, à Athènes, ça se passait comment au sein de la démocratie athénienne ?
La figure parfaite de la persuasion, c'est l'art de la rhétorique qui consistait à agir sur les convictions des individus et leurs comportements par l'art de la parole. À la fois
l'éloquence,
la façon de parler, mais aussi l'ordre du discours, de sorte que s'est développée une tradition qui s'est ensuite enrichie de l'expérience romaine et judiciaire romaine, une tradition consistant à faire de la parole un outil au service de la persuasion et parfois de la manipulation, c'est-à-dire de la persuasion à l'insu des gens qui sont visés.
Mais tout cela, si je vous ai bien compris, David Collomb, à travers l'art oratoire au début.
Au début, essentiellement à travers l'art oratoire, bien évidemment l'iconographie n'était pas absente de la persuasion, mais ce qui est à mes yeux tout à fait essentiel, c'est de considérer le fait que cet art de la persuasion s'adressait à des foules relativement restreintes.
Et sans micro, il faut le rappeler.
Et sans micro.
On
sans
a tendance
micro,
à l'oublier. Mais
et sans micro, ni amplificateur, ni moyen de reproduction de la pensée très largement, de sorte que la persuasion de masse, quant à elle, est née à l'époque moderne et l'art de la manipulation de masse est un produit du XXe siècle.
Oui, on va y venir, mais il a fallu l'imprimerie, puis il a fallu l'amplification du son, puis la reproduction d'images, les médias électriques et les médias électroniques. On va remonter toute cette histoire, mais avant, puisque nous sommes dans les racines du présent, il faut se rappeler que le rôle qu'a joué la propagande durant la Révolution, notre Révolution française.
Le mot propagande est issu de la Congrégation pour la propagation de la foi. C'est-à-dire que l'origine moderne de la propagande telle qu'on la connaît, c'est le cadre de la réforme catholique.
Et vous savez qu'à Rome aujourd'hui, cette congrégation, on l'appelle toujours Propaganda Fidei dans le langage romain, dans le langage courant. Et c'est de là que vient le mot propagande alors.
C'est de là que vient le mot propagande. Mm-hmm. Quant à la Révolution française, c'est le moment de la naissance d'une propagande de type laïque, de type politique destinée à agir sur les comportements du peuple qui est désormais un acteur politique et un acteur social majeur de l'histoire en France.
Donc on se souvient de Mirabeau, de Danton, qui s'adressaient directement au peuple à travers leur club, à travers l'Assemblée nationale.
Et Jacques-Louis
c'était
David,
une nouveauté.
C'était une grande nouveauté, de même que l'utilisation de l'image par Jacques-Louis David à des fins de propagande publique, l'organisation des fêtes également, qui se substituait bien souvent aux
fêtes religieuses. La fête de la fédération,
par exemple. La fête de la fédération, bien évidemment.
Qui voulait constituer un peuple, constituer une nation.
Constituer une nation et donner à la nation l'image d'elle-même. Et donner à la nation la conscience d'elle-même. Mmh. De sorte d'agir sur les représentations en même temps que sur les comportements des Français et des Françaises à l'époque.
Donc ça, c'était plutôt, c'était plutôt salutaire, c'était plutôt constructif. Ou bien est-ce qu'il y avait d'ores et déjà un risque de dérive, un risque de manipulation ? Est-ce que l'un et l'autre sont consubstantiels ? Voilà. Est-ce que la persuasion est consubstantielle à la manipulation ?
Je crois que l'un et l'autre sont consubstantiels. Le mot manipulation dans son sens moderne a été utilisé pour la première fois par Voltaire. Donc nous sommes au XVIIIe siècle. Et s'il est nécessaire, bien évidemment, de recourir à la persuasion de façon ouverte, et si c'est ce qui est considéré comme éthique, il est parfois nécessaire également de contourner la raison pour faire appel aux émotions. Et je ne connais pas de grand communicant qui n'ait pas été à un moment donné tenté de contourner les règles éthiques pour agir à l'insu des individus.
C'est une tentation permanente. La tentation de laisser à l'émotion la possibilité de prendre le pas sur la raison.
L'émotion a le mérite, pour celui qui en fait l'usage, de conduire à une action immédiate. Là où la réflexion, par
ou
définition...
Ou à une illusion d'action.
Ou à une illusion d'action, tandis que la réflexion, elle, éloigne le plus souvent de l'action, parce qu'elle conduit à considérer toutes les dimensions, tous les aspects...
Et à prendre du temps.
À prendre du temps, du temps et du recul.
Alors nous en arrivons au début de notre XXe siècle. Vous écrivez dans votre livre, David Collomb, dont je rappelle le titre, « Les maîtres de la manipulation, un siècle de persuasion de masse » chez Talandier. Vous écrivez que les démocraties en guerre ont créé, entre 1914 et 1918, les premières structures de propagande de masse à destination de leur propre population. Dans quel but, David Collomb ?
Eh bien, dans le but de permettre à la guerre de se dérouler dans de bonnes conditions dès lors que cette guerre commençait à durer. Au début du conflit, la tâche de propagande, de même que les actions militaires, était confiée, comme il se doit, aux états-majors. Mais à partir du moment où cette guerre s'est inscrite dans la durée, il devenait nécessaire de fabriquer en quelque sorte le consentement des masses à cette guerre. Dans les pays anglo-saxons, il s'agissait d'abord de faire consentir de jeunes hommes à s'engager pour combattre, parfois très loin de chez eux. Et partout, il s'agissait de faire consentir au financement de la guerre par l'emprunt. Il s'agissait aussi de faire consentir aux efforts associés à l'état de guerre. Il s'agissait de consentir aussi à tout ce qui a contribué à la mise en œuvre d'une guerre totale. Et de ce point de vue, la nation qui a vu l'organe de propagande le plus fascinant et en même temps le plus perfectionné de cette époque, ce sont les États-Unis.
Alors, les États-Unis au départ ne voulaient pas rentrer en guerre, le peuple américain.
Le peuple américain ne voulait pas entrer en guerre, il ne voyait pas la raison de s'engager si loin,
voilà,
de lui. Il faut dire aussi qu'une bonne partie des Américains sont alors des immigrés de fraîche date, et parmi eux des millions d'Allemands et d'Austro-Hongrois qui voient d'autant moins l'intérêt d'entrer en guerre aux côtés de la France et de l'Angleterre qu'il s'agit de combattre leurs cousins. Le président Wilson lui-même s'est engagé lors de sa campagne pour sa réélection à tenir les États-Unis en dehors du conflit. Et par conséquent, une fois qu'il engage les États-Unis dans la guerre en avril 1917, il ressent aussitôt la nécessité de créer une agence civile qui s'appelle le le comité d'information publique, Committee on Public Information, qu'il confie à l'un de ses plus proches conseillers, qui est un ancien journaliste, Georges Krill, voilà. Et qui fait figure de véritable ministre de la propagande.
Alors, vous brossez son portrait dans votre livre, David Colomb, et en vous lisant, on comprend que Georges Krill a vraiment persuadé les Américains du bien fondé d'une entrée en guerre et que pour cela, il a utilisé les techniques les plus modernes.
Toutes les techniques de l'époque ont été mises au service de cet objectif de propagande, dont la nouveauté principale était qu'elle s'adressait, que cette propagande s'adressait aussi bien aux pays neutres et à la population des pays ennemis qu'à la population américaine elle-même, qui, si j'ose dire, était la cible prioritaire de cette entreprise. Le cinéma, la radio, les affiches, le théâtre, tous les outils de communication ont été mobilisés. Les meilleurs acteurs de cette époque, à commencer par Chaplin, ont été également enrôlés, de même que des dizaines de milliers de notables qui se sont engagés dans des conférences publiques pour faire la promotion de la guerre auprès de leurs compatriotes.
Mais alors, peut-on parler, David Colomb, en quelque sorte d'une fabrication du patriotisme ?
Je ne sais pas s'il s'agit de fabriquer le patriotisme. Il s'agit en tout cas de fabriquer une image de l'ennemi qui rende la guerre
juste
ou légitime.
Légitime, oui.
Il s'agit aussi de conduire les Américains à considérer cette guerre comme servant les intérêts des États-Unis et sa grandeur. Elle est présentée comme une guerre de la liberté face aux autocraties. Et je dirais que s'il s'agit d'un patriotisme, c'est un patriotisme à l'échelle du monde. C'est la projection de l'image que les États-Unis se donnent d'eux-mêmes, qui est au fond une image messianique.
Alors, le terme de propagande est habituellement accolé dans nos esprits à la vision d'État totalitaire, à cette époque que nous évoquons en ce moment, aux alentours des années 1917-1918, nous songeons forcément à l'URSS. Mais ce que vous évoquez là, c'est le propre d'un État libre, d'un État démocratique.
Du plus grand État démocratique, voilà. Qui en 1920 accorde le droit de vote aux femmes, qui connaît une croissance économique sans pareil à l'échelle du globe, qui connaît un développement de la presse et des syndicats comme nulle part ailleurs. Et c'est ce qui rend d'autant plus nécessaire la persuasion de masse pour un certain nombre d'élites économiques, industrielles ou politiques qui se sentent quelque part menacées par l'avènement des masses dans la vie politique, qui ne voudraient pas que des masses peu instruites prennent la direction du cours des événements ou décident à leur place ce qui est bon pour tous, déterminent ce qui est l'intérêt général.
Là, on touche déjà les limites de la démocratie.
Nous touchons les limites de la démocratie telle qu'elle peut être définie comme la représentation de tous et de toutes.
Oui.
Mais aux yeux de ces hommes, et notamment des quelques maîtres de la manipulation que je décris à cette époque, c'est une façon de sauver la démocratie.
Contre elle-même ?
Contre elle-même.
Contre elle-même.
Et Bruno Latour disait de Walter Lippmann, l'inventeur de l'expression fabrique du consentement, qu'il voulait sauver la démocratie des mains des démocrates. Et je crois que c'est tout à fait cela.
Drôle de paradoxe quand même.
C'est un paradoxe interne à la démocratie. Mmh. Il est nécessaire de conduire les masses à adhérer aux décisions qui sont prises par ceux qui savent.
Au point que ce Walter Lippmann que vous évoquez, qui est un journaliste américain, écrivait en 1922, je cite, « La persuasion est devenue un art consciencieux et un organe régulier du gouvernement populaire. »
Il le déplorait. Car c'était contraire à ses convictions les plus profondes. Mais l'expérience de la guerre et l'expérience de l'après-guerre l'ont conduit à prendre conscience du caractère inévitable du recours à ces stratégies de persuasion et parfois de manipulation de masse pour éviter que se reproduise ce qui, à ses yeux, était une catastrophe, à savoir le rejet du traité de Versailles et de la Société des Nations à la suite d'une campagne qui a été menée par les Républicains en l'absence d'outils de propagande entre les mains du gouvernement, parce que le gouvernement américain avait mis fin aux opérations de la commission Krill, du comité d'information publique, dès le 12 novembre 1918.
Et du coup, le gouvernement a perdu la main en quelque sorte ?
Le gouvernement a perdu la main. Wilson était en Europe en train de négocier les traités de paix, et là, le comité de propagande fonctionnait à plein régime, en particulier en France, où cela se discutait. En revanche, aux États-Unis, les républicains ont eu les coups des franges pour lancer une campagne isolationniste qui a été menée par l'un des plus grands maîtres de la manipulation du XXe siècle, qui avait pour nom Albert Lasker, qui est l'inventeur de certaines des techniques de marketing et de communication et de publicité moderne, en même temps que celui
notamment,
qui
écrivez-vous, au service de l'industrie du tabac.
De l'industrie du tabac, mais qui...
Étonnante convergence.
Il faut dire que le tabac a pour client, a pour conseiller et communicant, les meilleurs conseillers et communicants de l'époque. Donc il n'est pas étonnant de retrouver plusieurs de mes maîtres de la manipulation embauchés par lui. Je crois qu'ils sont au moins 5 ou 6.
Ce sont les mêmes techniques.
Les techniques qui sont mises en œuvre par ces maîtres de la manipulation, une fois qu'elles ont fait la démonstration de leur efficacité, sont reprises et c'est perdurent ça. Jusqu'à nos jours.
Alors on va venir évidemment à nos jours. Je ne résiste pas au plaisir de citer une image qu'on retrouve dans votre livre à propos de Albert Lasker, justement, au service de l'industrie du tabac. C'est une marque de tabac qui fut bien connue, dont le slogan était, je traduis en français, pour encourager à fumer, donc le slogan était « Vous avez besoin de cette protection de la gorge ». Et donc la fumée était indiquée comme une protection de la gorge. Donc le mensonge peut être aussi une technique de persuasion massive.
Hélas.
Alors, je voudrais en venir à... On va quitter quelques instants, si vous voulez bien, David Colomb, l'univers de la persuasion douce, l'univers des démocraties qui, en quelque sorte, luttent contre leur propre peuple. Et on va écouter un extrait sonore qui va nous ramener au 18 février 1943. Là, on est carrément dans un état autoritaire, on est chez les nazis. Il s'agit du discours de Joseph Goebbels sur la guerre totale. Et vous nous expliquerez, après l'avoir écouté et réécouté, en quoi ce discours est significatif des techniques de base de la propagande.
Au Palais des Sports de Berlin, le docteur Goebbels, ministre de la propagande du Reich, prononce un discours capital dans lequel il démontre que si le peuple allemand donne son sang pour sauver l'Europe, il est normal que le reste de l'Europe mette son travail à la disposition du Reich.
Seid ihr entschlossen, dem Führer in der Erkämpfung des Sieges durch dick und dünn und unter Aufnahme auch der schwersten persönlichen Belastungen zu folgen.
Et c'est la véritable mobilisation civile de toutes les forces vives de la nation allemande. Toutes les usines d'armement travaillent nuit et jour. Hier, vendeuse dans les grandes maisons de couture. Hier, vendeuse dans la bijouterie. Hier, vendeuse dans la parfumerie. Ouvrière aujourd'hui. Selon l'expression du docteur Goebbels, une menace mortelle immédiate pèse sur toutes les puissances européennes. L'Occident est en danger.
Voilà, nous étions le 18 février 1943 et c'était donc les actualités françaises en français qui rendaient compte du discours de Joseph Goebbels sur la guerre totale devant, je crois, David Colomb, plus d'un million de personnes qui étaient réunies à Berlin ce jour-là. En quoi ce discours est-il significatif pour vous ?
Ce discours est significatif d'abord de la place de la rhétorique dans la propagande nazie et du talent oratoire de Goebbels, qui était certainement le meilleur orateur du nazisme. Elle est aussi, cet extrait est tout à fait emblématique d'une caractéristique de la propagande nazie, qui est le recours aux émotions, le recours à une forme de psychologie des foules qui est présente déjà au tout début du nazisme, parce que Adolf Hitler a été très impressionné par ce qu'il appelle la propagande psychologique des alliés. Il considère que la propagande est ce qui a conduit à la défaite de l'Allemagne, parce qu'elle n'a pas été capable à ses yeux de développer les mêmes outils de propagande que les alliés. Et il a posé dans Mein Kampf et par la suite un certain nombre de règles qui ont été savamment suivies par Goebbels, qui avait pour Hitler une admiration sans faille. Ensuite, ce discours est révélateur de l'intention de Goebbels, qui est pas tant de mobiliser les Allemands. On sait à travers ses carnets qu'il avait le plus grand mal à obtenir la fameuse guerre totale et mobilisation totale en 1943 et encore en 1944.
Les Allemands commençaient à fatiguer. Quoi.
Les Allemands avaient fatigué depuis bien longtemps. Et on le sait également, enfin, les historiens le savent depuis longtemps. En revanche, sa cible, c'est l'opinion publique internationale. Il s'agit pour lui de donner du peuple allemand l'image à l'extérieur des frontières d'un peuple résolu à se battre jusqu'au bout pour faire douter les alliés. Et puis enfin, ce discours s'adresse également à Hitler, puisque il est certes ministre de la propagande, mais ses compétences sont relativement limitées. Et elles le sont encore en 1943, et il cherche à étendre son pouvoir.
Mais alors, si je vous entends bien, David Collomb, je rappelle le titre de votre livre, « Les maîtres de la manipulation, un siècle de persuasion de masse chez Talandier ». Si je vous comprends bien, donc, il y a une sorte de fascination réciproque, d'une part des démocraties occidentales et d'autre part des régimes autoritaires et totalitaires, pour ces techniques de propagande et de persuasion clandestine. Vous écrivez, ce n'est que lorsque les régimes autoritaires et totalitaires ont repris et perfectionné les dispositifs et les techniques de propagande que les démocraties ont perçu la nécessité de faire sortir la propagande d'un régime d'exception pour la considérer désormais comme un outil ordinaire de l'exercice du pouvoir. Donc il y a quelque chose d'une fascination réciproque.
Il y a une tendance à un progrès constant de la propagande par-delà les époques et par-delà les régimes. C'est-à-dire que l'Allemagne nazie s'était inspirée d'une part de la propagande des Britanniques, des Américains et des Français pendant la Première Guerre mondiale, mais d'autre part elle s'est inspirée également de la propagande soviétique que Hitler lui-même mentionne dans Mein Kampf, et la cite en exemple. Elle s'est inspirée aussi des techniques américaines, c'était le lot de Joseph Goebbels que de s'approprier les acquis de la propagande et de la publicité moderne, et du cinéma et de Disney. Et à leur tour, les régimes démocratiques dans les années 40, et en particulier bien sûr pendant la Seconde Guerre mondiale, sont conduits à adopter certaines de ces techniques. Je songe par exemple aux techniques de persuasion par le symbole, la croix de Lorraine, par exemple, ou le V de la victoire, qui sont des campagnes de propagande en réponse à la propagande
à la croix gammée
qui se répand sur les murs des pays occupés.
Alors, je voudrais vous faire écouter un deuxième extrait sonore, David Collomb, parce que, enfin, vous allez voir que la juxtaposition de ce qu'on vient d'entendre, Joseph Goebbels, et de ce que je vous propose d'écouter peut paraître un peu exotique, mais c'est un parallèle que vous ne craignez pas de faire dans votre livre. Nous allons remonter en 1937. Nous allons évoquer une production de Walt Disney qui s'appelle Blanche-Neige. En 1937, on va écouter Le Chant des Nains. Et pour vous, et vous allez nous l'expliquer, Walt Disney est quand même l'un des grands maîtres de la persuasion de masse. On va voir pourquoi et comment. On écoute Le Chant des Nains de Blanche-Neige. Voilà, alors je me tourne vers vous, David Collomb. Dans votre livre « Les maîtres de la manipulation, un siècle de persuasion clandestine », c'est chez Talandier. Vous évoquez ce Chant des Nains de Blanche-Neige en 1937, produit par Walt Disney, et vous faites le parallèle, d'une certaine façon, avec Joseph Goebbels. Expliquez-nous.
Eh bien, c'est un chant qui s'inspire très clairement d'un chant des jeunesses hitlériennes. Et cela peut surprendre a priori, sauf si l'on considère le parcours et la personnalité de Walt Disney.
Allez-y, expliquez-nous.
C'est certainement l'un des plus grands manipulateurs de masse du XXe siècle.
Carrément.
Il a été formé dans le monde de la publicité, où il a été initié à l'art de la persuasion, y compris la persuasion clandestine. Il a fait du personnage de Mickey un outil de propagande au service de ses valeurs, en l'espèce des valeurs conservatrices, morales.
Il sympathique quand même.
Bien évidemment.
J'entends nos auditeurs qui se rebellent.
Bien évidemment, en fonction du point de vue que l'on adopte. Oui. Mais là, en l'occurrence, il s'agit de le faire à l'insu des enfants qui regardent ces dessins animés. Il est l'un de ceux qui ont contribué à l'adoption du code moral à Hollywood, le fameux code Hays. Dans la seconde moitié des années 30, ce qui l'emporte chez lui, c'est l'isolationnisme. Il refuse l'idée d'une entrée en guerre contre l'Allemagne nazie. Il a manifestement des sympathies pour l'Allemagne nazie. Il fait remettre à Adolf Hitler un coffret avec des dessins animés par l'entremise de son frère et de Goebbels. Il accueille, et il est le seul à le faire, Leni Riefenstahl, la cinéaste d'Adolf Hitler, dans ses studios à Hollywood en 1938. Il tente de mobiliser les cinéastes pour faire battre Roosevelt en 1940. Et puis ensuite, une fois la guerre déclarée, il met bien évidemment son art au service de l'armée et de l'administration américaine en produisant certains des dessins animés les plus persuasifs de l'histoire, avec à chaque fois un objectif très concret qui leur est assigné.
Et alors vous écrivez, David Colomb, que Walt Disney, Joseph Goebbels et le chinois Lin Piao, qui était donc le second de Mao Tse-tung, utilisent les uns et les autres la persuasion par la répétition. Ils exposent les individus à un message répété de façon persistante et indifférenciée. Et donc, en fait, vous mettez tout ce monde-là dans le même sac, c'est bien ça?
Pas exactement dans le même sac, mais quand je cherche à identifier les principales approches de la persuasion, il est clair que celle qui a longtemps prédominé est la persuasion par la répétition. La répétition de l'exposition à des symboles, à des slogans, à des messages transparents ou parfois dissimulés. Et il est clair que Disney relevait de cette tradition dans la répétition d'un certain nombre de messages patriotiques dans ses dessins animés de propagande de la Seconde Guerre mondiale, par exemple.
Très bien. Alors ensuite, on est arrivé à des techniques quand même plus sophistiquées. Il ne s'agissait pas uniquement de prendre un marteau pour taper sur la tête des gens, mais on a utilisé des techniques à l'échelle industrielle inspirées de la publicité. Et vous citez un Français qui a été le grand artisan de l'avènement de ces techniques dans notre vie politique en France, c'est Michel Bongrand. Et également, vous citez Marcel Bleustein-Blanchet. Parlez-nous de ces deux hommes et expliquez-nous en quoi ils ont franchi la frontière entre la publicité et l'action politique.
Eh bien, s'agissant de Bleustein-Blanchet, il s'agit d'un homme qui a visité à trois reprises les États-Unis dans l'entre-deux-guerres et qui, à chaque voyage, a rapporté un certain nombre d'idées qu'il a aussitôt appliquées à son entreprise Publicis, fondée en 1926, qui avait trait notamment à la radio, à la publicité, aux slogans publicitaires à la radio, et qui avait trait également après-guerre à l'usage des sondages, à la mesure de l'opinion, à des fins de persuasion. Et il s'est mis, dans les années 1950, au service des présidents du Conseil, qu'ils soient de droite, de gauche ou du centre. Il a servi les intérêts de ces présidents du Conseil en cherchant à les initier à l'art de la communication politique moderne. Quant à Bongrand, c'est un autre profil. C'est un résistant de la Seconde Guerre mondiale, engagé dans la résistance armée, et qui s'est ensuite converti au métier de publicitaire. Il a notamment assuré la promotion des films de James Bond en France avec un grand succès, et a lui aussi importé des techniques américaines qu'il a empruntées à la campagne présidentielle de John Fitzgerald Kennedy en 1960. Et donc, c'est l'introduction du marketing politique. Il s'est d'abord adressé au président Charles de Gaulle, qui a refusé ses services.
En 1965, c'est ça ?
Exactement. Et il s'est retrouvé à faire campagne pour Jean Le Canuet.
Ce ne fut pas véritablement un succès.
Ce ne fut pas un succès, sauf si l'on considère que Le Canuet, au début de sa campagne, représentait 3% des intentions de vote et a obtenu un peu plus de 15% des suffrages.
Donc on voit bien qu'avec ces nouvelles techniques, disons, de marketing politique, on s'éloigne de ce qu'on évoquait tout à l'heure, c'est-à-dire l'exposition des individus à un message répété de façon persistante et indifférenciée, mais on travaille sérieusement et finement, d'abord en mesurant l'opinion, et ensuite en mesurant l'impact des opérations de persuasion, et donc en ajustant le discours.
Il s'agit d'appliquer aux campagnes politiques les principes tirés de ce que l'on appelle la publicité scientifique, c'est-à-dire cette publicité qui conçoit son contenu en fonction de son efficacité, indépendamment de toute dimension de conviction.
Alors, donc, à partir de ce moment-là, jusqu'à quel point peut-on dire que la démocratie a été pervertie ? Ou bien doit-on admettre qu'elle l'a toujours été depuis sa naissance ?
Il faut dire que les techniques dont on parle en France ont tardé à être appliquées, tout simplement parce que le régime politique ne s'y prêtait pas. La Troisième et la Quatrième République étaient des régimes parlementaires. Ces techniques américaines n'avaient pas vraiment lieu d'être. En revanche, à partir du moment où nous avons connu l'élection d'un président de la République au suffrage universel direct, et à partir du moment où les partis politiques modernes ont développé des campagnes à l'échelle de la nation tout entière, la nécessité s'est faite jour de techniques de ce type, qui ont été, il faut le dire, plus volontiers adoptées par les partis de la droite et du centre, pour lesquels travaillait Michel Bongrand, que par la gauche qui a attendu François Mitterrand pour accepter, en quelque sorte, de recourir au marketing dans le champ politique.
Mais alors, faut-il comprendre, David Collomb, que à partir du moment où on fait appel au peuple, on se doit de manipuler le peuple ?
Je crois que ce n'est pas, enfin, je ne m'exprimais pas en termes de devoir, mais cela devient une nécessité pour les candidats ou une nécessité telle qu'ils le perçoivent.
Pour remporter des suffrages.
Pour remporter des suffrages et pour gagner le plus possible l'opinion à leur cause.
Les racines du présent, RCF.
Les racines du présent, au micro toujours Frédéric Mounier. Nous sommes en compagnie cette semaine de l'historien David Collomb, auteur d'un livre passionnant intitulé « Les maîtres de la manipulation, un siècle de persuasion de masse ». C'est publié chez Talendier et nous remontons avec lui au fil de notre conversation jusqu'aux racines de la propagande, puis de la manipulation, puis de la persuasion politique. Nous avons commencé notre conversation autour de la démocratie athénienne, puis nous avons évoqué la Révolution française, l'entrée en guerre des États-Unis en 1917, et puis nous en sommes arrivés à l'époque contemporaine, où il s'agit, David Collomb, d'appliquer la psychologie à l'art de la persuasion en vue d'identifier et d'influencer les mobiles des conduites humaines. C'est ce que vous écrivez, mais ce n'est pas vrai uniquement en politique, c'est vrai dans tous les domaines.
C'est vrai dans tous les domaines, et c'est vrai d'abord du domaine de la publicité qui a irrigué les autres domaines. L'un des premiers à l'avoir fait est Édouard Bernays, qui était le neveu de Freud et qui a appliqué des principes tirés de la pensée de son oncle à des campagnes politiques en même temps qu'à des campagnes publicitaires. À sa suite, Ernest Dichter, lui aussi d'origine autrichienne, a introduit la psychanalyse à Madison Avenue en recherchant les mobiles cachés des consommateurs et des consommatrices.
Donc maintenant, on sait tout de tout le monde.
Alors là,
depuis trois générations que ces méthodes sont en œuvre.
Je vous parle d'une époque où l'on ne savait pas grand-chose, mais où on cherchait à percer les secrets de l'inconscient. Aujourd'hui, nous savons énormément de choses. Enfin, si j'ose dire, les manipulateurs de masse savent énormément de choses à partir du moment où nos usages numériques ont pour effet de produire des données comportementales, des données sur nos comportements, sur nos habitudes de vie et de consommation, qui peuvent aider précisément ces manipulateurs de masse à proposer des publicités plus efficaces que par le passé.
Alors, on va plonger dans notre époque contemporaine avec un troisième extrait sonore. J'ai choisi, je dois dire, un petit peu au hasard, mais je voulais rendre compte de l'ambiance des débats qui sont ceux qui nous animent aujourd'hui, car je voulais avoir votre avis, David Collomb, sur les techniques de persuasion qui sont à l'œuvre aujourd'hui, et notamment le grand débat, vous le savez tous, depuis des mois et des mois, c'est le débat sur les vaccins. Donc on va réécouter l'extrait d'un débat qui a eu lieu, semblable à tant d'autres, il faut bien le dire, le 31 mai de cette année, 2021. C'était sur les grandes gueules de RMC. On écoute les arguments.
Alors, moi, je vais vous dire une chose. Je ne suis pas un anti-vax. Je suis sceptique sur la vaccination, puisqu'apparemment, on nous dit qu'en étant vacciné, oui, on peut contaminer les gens. Alors, je vais vous dire un truc. J'ai dans ma famille 5 personnes qui ont été Covid. Donc, 5 personnes, dont une asymptomatique, mon fils. Ma belle-mère a été hospitalisée avec le Covid. J'ai été testée plusieurs fois. Pas de Covid, négatif à tous les points de vue. Maintenant, on me dit, malgré tout, faites-vous vacciner, mais avec un risque de contamination pour les autres. Moi, je vais poser une question à Charles Consigny, qui est avocat. Pénalement, qui est responsable ? On met quand même la vie des autres en danger si on se fait vacciner, apparemment.
Ben non.
Qui est responsable de quoi ?
Est-ce que je peux avoir une réponse ?
C'est pas vrai, j'ai pas compris. Qui est responsable de quoi, si quoi ?
Pardon ?
Madame pense qu'on se fait. Madame pense qu'on est que quand on est vacciné, on peut l'attraper du fait non.
Ah bah
du
c'est
fait
ce que d'être tous vacciné, les médecins
disent. C'est pas du fait d'être vacciné, madame. C'est du fait que le fait d'être vacciné n'empêche pas que l'on attrape la maladie. C'est pas le vaccin qui vous la donne. C'est le fait d'être vacciné n'empêche pas qu'on contracte.
On évite les formes graves.
Mais on évite les formes graves et la mort. Personne n'a dit que ça empêchait.
Bah alors dites-moi pourquoi moi qui n'a jamais été malade du Covid. On me dit pas la même chose alors. Excusez-moi, j'ai jamais eu le Covid encore jusqu'à l'heure d'aujourd'hui. Alors maintenant j'ouvre mes fenêtres, j'aère ma maison, voilà. le virus se promène un peu dans
l'espace, on va mais dire.
Mais vous sortez pas, vous voulez pas, si vous écoutez, si vous
ah, mais
vivez
moi, je
tout.
Sors, je suis à domicile donc je vais travailler.
Bah voilà. À domicile, vous avez contact avec beaucoup de gens. À mon avis, si vous le chopez, vous le risquez de le transmettre. Il y a une part de responsabilité là dans le coup.
Et puis monsieur, vous pouvez
fais...
très
non,
bien
mais
l'avoir
monsieur,
attrapé.
Je me fais tester. Non, mais bon, monsieur, voilà. Je me fais tester. Donc moi, mes...
Voilà, on va en rester là. Vous avez bien reconnu, disons, une certaine forme de confusion des dialogues et des débats publics ces derniers mois autour de la question de la vaccination. Ça n'est qu'un exemple parmi d'autres. C'était donc sur RMC, dans les grandes gueules, le 31 mai 2021. David Collomb, dans votre livre « Les maîtres de la manipulation, un siècle de persuasion de masse chez Talendier », vous réfléchissez à toutes ces techniques de travail de l'opinion, de malaxage de l'opinion. Et j'ai lu dans l'une de vos interventions récentes, votre réponse à une question que tout le monde se pose, c'est qui croire ? Et vous dites, David Collomb, ce débat actuel nous ramène au Moyen-Âge. De quelle façon ?
Il nous ramène au Moyen-Âge dans la mesure où nous avons perdu ceux qui, pendant plusieurs siècles, avaient pour charge d'identifier ce qui est vrai et ce qui est faux.
Qui était-il ?
Eh bien, ce que l'on appelle communément les portiers de l'information dont vous êtes, qui choisissent l'information digne d'être portée à la connaissance du grand public, les éditeurs, les scientifiques. Et si nous les avons perdus, c'est parce que ils sont bien évidemment toujours là, mais
on les croit plus.
On ne les croit plus, ou surtout on croit ce que l'on voit soi-même sur Internet. C'est symptomatique d'une évolution profonde qui est l'affaiblissement des médias de masse au profit de médias qui s'adressent toujours aux masses, mais à travers des petits groupes d'appartenance de plus en plus étroits. L'exemple que vous avez donné est tout à fait symptomatique, car nous avons connu dans les années 50 l'éradication d'une maladie infectieuse qui était la poliomyélite par une campagne de communication à grande ampleur qui avait lieu sur les réseaux sociaux, avec l'autorité des médecins, l'autorité des scientifiques, l'autorité des journalistes, l'autorité des éditeurs, l'autorité des dirigeants politiques.
L'autorité des autorités légitimes qui étaient reconnues.
Exactement, des autorités qui n'étaient pas contestées continuellement.
Et donc tout le monde les croyait.
tout le monde les croyait, leur a fait confiance, et en l'occurrence, cette maladie infectieuse a été éradiquée. Aujourd'hui, je crois que nous sommes passés de la fabrique du consentement démocratique, dont nous parlions tout à l'heure, à la fabrique du dissentiment, c'est-à-dire la fabrique de la défiance envers les élites, la fabrique aussi de la colère sur les réseaux sociaux, la fabrique d'un fractionnement politique qui va tout à fait à l'encontre de notre intérêt en tant que pays démocratique, qui va tout à fait à l'encontre de débats sereins.
Donc vous qui êtes historien, c'est à vos yeux un phénomène nouveau.
C'est un phénomène qui plonge ses racines dans la diversification de l'offre médiatique, en particulier télévisuelle, et puis ensuite dans l'avènement d'Internet et plus tard des réseaux sociaux. Les réseaux sociaux ont un rôle particulier dans la mesure où leur modèle économique repose sur une publicité ciblée qui cherche précisément à enfermer en quelque sorte les individus dans leur identité à des fins mercantiles. Et c'est ce qui conduit à un fractionnement constant qui voit les individus vivre en tribus et des tribus de plus en plus hostiles les unes aux autres.
Lutte de tous contre tous.
Alors que nous avons su, dans le siècle qui a précédé, dépasser nos différences pour construire un espace commun de débat et de dialogue qui permettait à tous et à toutes d'être entendus. Je crois que les évolutions en cours sont des évolutions extrêmement inquiétantes et c'est ce que je cherche à montrer dans ce livre.
Alors vous brossez donc les portraits, on l'a entendu depuis le début de cette émission, David Colomb, vous brossez dans votre livre Les Maîtres de la Manipulation chez Talendier les portraits de tous ceux qui nous manipulent en quelque sorte, et notamment ces derniers temps vous brossez le portrait de Steve Bannon qui a été l'un, disons, des acteurs, les constructeurs de cette fabrique de la défiance que vous venez d'évoquer et qui a conduit à l'élection de Donald Trump aux États-Unis. Racontez-nous un peu qui est Steve Bannon et comment fonctionne-t-il ?
Steve Bannon vient du monde de la finance et la finance l'a conduit à Hollywood et puis dans les jeux vidéo avant de se lancer dans la production audiovisuelle au service du Tea Party, ce mouvement ultra-conservateur du Parti républicain aux États-Unis, puis de devenir le principal architecte de la victoire de Donald Trump. Et Steve Bannon a compris avant bien d'autres la potentialité manipulatoire des réseaux sociaux, c'est-à-dire très concrètement comment on pouvait détourner de leur objet premier les outils de publicitaires des réseaux sociaux, par exemple de Facebook, pour en faire de véritables armes au service d'un projet politique qui repose sur le chaos. Et rien d'autre que le chaos politique.
Mais à l'insu des personnes.
À l'insu des personnes, car avec Cambridge Analytica, dont il est à l'origine, il en était le vice-président, il a conçu des outils de collecte, d'analyse des données qui permettaient d'identifier les fragilités psychologiques des individus et de leur présenter de façon individuelle une propagande adaptée à leur profil psychologique.
C'est-à-dire, vous êtes au chômage, l'ennemi, ça sera donc l'immigré, par exemple. Vous êtes hétéro, l'ennemi, ça va être l'homo.
Vous avez une personnalité, vous êtes anxieux, vous êtes naturellement anxieux, on va en rajouter sur votre anxiété. Mm-hmm. On va vous donner à voir la menace permanente que représente celui qui est à votre porte, l'étranger à votre porte. Et de la sorte, vous conduire à réagir par une forme de colère dans la direction qui est voulue. On va construire des murs là où il n'y en avait pas entre les communautés et entre les individus. On va rendre irréconciliables des gens qui auraient très bien pu s'entendre autour d'une table.
Mais tout ça à partir de l'analyse prédictive du comportement, à partir du profilage psychologique et avec ce que vous appelez, David Colomb, des outils de micro-ciblage.
Oui, on ne mesure pas aujourd'hui à quel point, ou peu de gens réalisent à quel point, ces outils sont inédits et absolument effrayant. Ce sont des outils qui d'abord collectent des données considérables sur les individus, comme jamais personne n'a pu collecter.
C'est Goebbels sans mieux.
C'est la Stasi fois 1000.
Fois 1000, c'est ça.
C'est la Stasi fois 1000. Et ensuite, ces données permettent une exploitation prédictive, à la fois par une approche inductive, on infère des probabilités sur la base des données disponibles, une dimension déductive où on va tester le comportement des utilisateurs à leur insu sur les réseaux sociaux, et puis par le recours à ce que l'on appelle communément l'intelligence artificielle artificielle qui permet, par exemple, de détecter une émotion sur la base de textes écrits ou sur la base d'images, de sorte de déterminer quels sont les outils et les moyens de diffusion les plus appropriés pour chaque groupe d'individus. Ce sont des outils absolument effrayants qui sont considérés comme des armes de manipulation massive, qui sont particulièrement dangereux pour nos démocraties, qui en ont déjà fait la preuve à plusieurs reprises et qu'il me paraîtrait urgent d'interdire.
À côté de Steve Bannon, vous évoquez David Colomb dans votre livre, la personnalité de Roger Ailes, l'homme, écrivez-vous, qui a fait de Fox News une arme de manipulation massive. Là, on parle d'un média plus traditionnel, qui est la télévision, qui est venu en complément les actions de Steve Bannon pour faire élire Donald Trump.
Tout à fait. Steve Bannon et Roger Ailes ne s'entendaient pas particulièrement bien. Ils ont travaillé en parallèle, si j'ose dire, et de façon non concertée. Roger Ailes est quelqu'un qui a toujours aimé faire des présidents de la République, c'est-à-dire faire élire des présidents de la République. Il est à l'origine, en particulier, de l'élection de Nixon en 1968. Il est à l'origine de l'élection de Bush père. Il a une réputation extrêmement grande de manipulateur par l'outil médiatique, en s'inspirant ouvertement, au demeurant, de l'art de Leni Riefenstahl en la matière, notamment la contre-plongée pour donner une image de force des personnalités présentées à l'écran. Et il a fait de Fox News, avec le soutien de Rupert Murdoch, un outil de manipulation de masse au service de la construction d'une communauté de téléspectateurs complètement coupés du reste de la société américaine, coupés dans leur perception de tous les événements, qui a été ensuite mobilisé politiquement à plusieurs reprises et continue aujourd'hui de l'être.
Les racines du présent, Frédéric Mounier.
Les racines du présent, cette semaine, nous sommes en compagnie de l'historien David Colomb, enseignant à Sciences Po, qui publie un livre tout à fait passionnant intitulé « Les maîtres de la manipulation, un siècle de persuasion de masse ». Avec lui, donc, nous remontons l'histoire pour simplement essayer de comprendre comment et pourquoi, par qui surtout, nous sommes manipulés presque jour et nuit, si on vous écoute bien, David Colomb. Alors, nous venons de parler de la personnalité de Steve Bannon, qui a contribué à l'élection de Trump, et aussi, il faut le dire, il a contribué de manière décisive au Brexit, au Royaume-Uni. Mais je voudrais aborder avec vous, David Colomb, une autre technique qui fonctionne plus largement que la persuasion politique. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui le nudge. Alors le nudge a été fondé par a été construit, disons, par une personne qui s'appelle Richard Thaler. Et tout est parti, David Colomb, de la mouche des urinoirs. Expliquez-nous.
La mouche des urinoirs de l'aéroport de Schiphol. C'est une expérience qui a été menée dans les années 1990 pour réduire les coûts de nettoyage des urinoirs à des toilettes pour hommes de l'aéroport de Schiphol. On dessinait une petite mouche aux Pays-Bas. On dessinait une petite mouche au milieu de l'urinoir pour aider en quelque sorte ces messieurs à uriner. Et on a constaté une baisse de la dépense en matière de nettoyage. Et cette mouche est considérée par Richard Thaler, prix Nobel d'économie, comme étant le meilleur exemple du nudge. Le nudge, c'est à la fois le coup de coude que l'on donne à quelqu'un pour attirer son attention sur quelque chose et la pitchonette qu'on lui donne dans le dos pour l'encourager à agir. Autrement dit, il s'agit de proposer dans l'environnement de choix des individus des outils manipulatoires qui conduisent les individus d'eux-mêmes à faire le bon choix sans qu'on le fasse de façon comitatoire.
Tout en douceur.
Tout en douceur,
il n'est pas nécessaire des hurlements de Joseph Goebbels pour nous obliger à faire quelque chose.
Sans hurlement. En fait, cela relève de ce que Thaler appelle le paternalisme libertaire, c'est-à-dire c'est un paternalisme parce qu'il s'agit de faire en sorte que les individus fassent ce qui est bon pour eux, et il est en même temps libertaire parce qu'on respecte formellement la liberté de choix, libre aux individus. Alors, de suivre ou non la recommandation qu'il aurait faite.
Donnez-nous des exemples, David Colomb, dans quel domaine le nudge a-t-il abouti à des évolutions.
Je vais en donner deux exemples très simples. Le premier, c'est l'exemple de la consommation de fruits et de légumes dans les restaurants collectifs. Il a suffi de les placer à hauteur des yeux pour augmenter mécaniquement leur consommation, c'est-à-dire rendre un objet visible, le rend plus accessible. Le deuxième exemple est celui du conformisme, de l'appel au conformisme qui a conduit, par exemple, l'administration britannique à intégrer dans ses feuilles d'impôts une simple phrase qui mentionnait le fait que la plupart des Britanniques payaient leurs impôts dans les temps. Et cette simple mention a suffi à augmenter la proportion de Britanniques qui, effectivement, réglaient leurs impôts dans les temps.
Donc, si j'ai bien compris, plutôt que de dire « vous allez avoir 10% de pénalité si vous ne payez pas dans les temps », il suffit de dire « vous savez, tout le monde paye dans les temps ».
Exactement.
Et comme ça, ça fonctionne.
Exactement. Richard Thaler a rencontré la psychologie sociale à travers de grands psychologues qui lui ont enseigné l'art de ce que l'on appelle les biais cognitifs ou les biais heuristiques,
oui,
c'est-à-dire ces raccourcis de la pensée qui nous conduisent à prendre, parfois à notre insu, des décisions qui peuvent tantôt être bonnes, tantôt être catastrophiques pour nous. Et il a su tirer profit de cette connaissance de ces biais proprement humain pour les mettre au service d'un art de la persuasion aussi discret que efficace souvent.
Est-ce qu'on a des exemples en France, David Colomb, de l'utilisation du nudge ?
Il y a eu une expérience à Lyon qui a été assez intéressante dans le métro de Lyon avec un nudge pour encourager les Lyonnais et les Lyonnaises à prendre davantage l'escalier, c'est-à-dire qu'à côté d'un escalier mécanique, il y avait un escalier où figurait une mention qui était je ne sais plus, quelque chose comme marcher c'est bon pour votre santé, mm-hmm. à hauteur des yeux, et les chercheurs ont constaté que la proportion d'individus de clients du métro qui prenaient l'escalier classique avait augmenté. Et chose amusante, ils se sont amusés un jour ils ont mis l'escalier mécanique en panne. Mmh. Ils ont constaté qu'il y avait davantage de gens qui prenaient l'escalier mécanique en panne qu'il y en avait eu auparavant, avant que le nudge fût mis en place. Autrement dit, le fait d'être privé de la liberté de choix nous rend réfractaires à l'encouragement qui nous est donné. C'est parce que nous sommes libres de prendre les escaliers classiques que nous les prenons lorsque nous avons ce petit encouragement à le faire.
C'est parce qu'on nous dit que nous sommes libres que nous pouvons le prendre.
C'est parce qu'on nous dit que nous sommes libres que nous trouvons manipulés à notre insu.
Mais alors finalement, David Colomb, quand on vous écoute bien et quand on voit tous ces processus, il y a quand même des questions de base qui se posent à notre vie démocratique, à notre vie politique. C'est quid du libre arbitre, quid de la liberté d'opinion ? Qui croire, au fond, David Colomb ?
Certains de ces manipulateurs considèrent que le libre arbitre n'existe pas, qu'il est une illusion,
construction
philosophique,
oui.
Et que nous devons, une bonne fois pour toutes, admettre que nous sommes constamment influencés et que, par conséquent, si ce sont des publicitaires qui nous influencent pour de bonnes raisons, tant mieux. Mais vous avez raison de souligner que cela a des conséquences parfois très graves dans le champ démocratique, lorsque nous sommes encouragés à des comportements qui peuvent fragiliser nos sociétés, et ce, à notre insu. Je crois que parmi les techniques manipulatoires, les plus dangereuses sont celles qui, précisément, tire bénéfice d'une meilleure connaissance des processus de décision humain et de la psychologie humaine et de nos comportements quotidiens à travers notamment les réseaux sociaux et Internet.
Donc le remède, ça serait quoi, en fait ?
Le remède.
Que préconisez-vous, docteur Colomb ?
La Commission européenne, en avril dernier, a dévoilé un projet de règlement général de l'intelligence artificielle qui envisage l'interdiction pure et simple des outils de manipulation de masse algorithmique.
S'agit de Facebook, par exemple.
Il s'agit des outils, certains outils publicitaires de Facebook qui permettent de déterminer le profil psychologique des individus et, par l'analyse prédictive, d'agir sur leur comportement, ce que Shoshana Zuboff a appelé le capitalisme de surveillance. Et je crois que cette interdiction est certainement nécessaire. Elle n'est pas suffisante, car il faut avoir à l'esprit que nous sommes aujourd'hui bien plus exposés à la propagande et à la manipulation que nous les étions par le passé. Par le passé, nous n'avions pas Internet, nous n'avions pas autant d'accès à l'information, nous n'avions pas autant à avoir été éduqués. Et de façon tout à fait paradoxale, plus on est éduqué, plus on est informé, et plus on est exposé à la propagande.
Alors, expliquez-nous ce paradoxe. Parce qu'effectivement, on a vu, notamment dans la polémique sur les vaccins récemment, on a vu des gens Bac+12 nous tenir des propos qui étaient des propos assez, comment dire, peu élaborés dans le raisonnement. Expliquez-nous comment se fait-il que des gens très éduqués puissent être totalement soumis ainsi.
Cela s'explique principalement par deux facteurs. Le premier est le fait que nous passons désormais des heures devant les écrans et que nous sommes davantage soumis que par le passé à des opérations de manipulation. Le second facteur est que ces opérations de manipulation sont de plus en plus difficiles à détecter. Une affiche nazie dans une rue de Berlin en 1937 ne faisait illusion pour personne. Mmh. En revanche, les dispositifs qui sont présents sur Internet sont très difficiles, le plus souvent à identifier. Et le fait d'avoir fait des études, le fait de nous être bien informés, nous donne une fausse sécurité. Nous conduit à un excès de confiance. Et je crois que la meilleure règle en la matière, c'est le fameux « connais-toi toi-même » qui consiste à connaître ses faiblesses et admettre que chacun et chacune d'entre nous peut, à un moment donné de sa vie ou de sa journée, être manipulé. Il faut, je crois, dans sa vie quotidienne, se méfier de tout ce qui génère un excès de joie ou un excès de colère. Parce que bien souvent, ce qui au contact des outils numériques génère un excès de joie ou un excès de colère peut provenir d'une opération de manipulation.
Il faudrait se méfier de nos émotions.
Je crois qu'il faut se méfier de nos émotions et de nos affects et prendre davantage de distance par rapport à tout ce qui peut nous affecter.
Il nous faut travailler l'esprit critique peut-être ?
Il nous faut bien évidemment travailler l'esprit critique. Il nous faut davantage encore éduquer à l'information et savoir surtout... hiérarchiser cette information et retrouver peut-être la confiance dans les médias que nous avons trop perdue. Je crois que nous avons en France fort heureusement des médias libres et qui, avec beaucoup de journalistes qui font remarquablement bien leur métier, et nous devons leur faire confiance, comme nous devons parfois faire confiance aux scientifiques et comme nous devons parfois aussi, même si ce n'est pas toujours facile, faire confiance à nos gouvernants.
Donc tout cela signifie faire confiance à des gens qui ne pensent pas forcément comme moi.
Il faut non seulement leur faire confiance, mais je crois nous mettre à l'écoute. L'un des problèmes de notre vie démocratique au XXIe siècle, c'est que nous vivons un peu dans des bulles informationnelles qui sont refermées sur nous-mêmes.
Et, qui tournent en boucle.
Qui tournent en boucle, c'est ce que l'on appelle les filtres algorithmiques, les bulles de filtres algorithmiques. Il faut apprendre à en sortir en acceptant parfois de discuter posément et calmement avec quelqu'un qui ne partage pas notre opinion, sans chercher nécessairement à le convaincre ou le persuader qu'il a tort, mais simplement l'écouter.
Donc pour résumer, croiser les sources, travailler la diversité des informations, faire preuve d'esprit critique, écouter l'autre, c'est ça les remèdes ?
Et faire confiance.
Et faire confiance. Alors, il y a un tout dernier point, David Collomb, on arrive au terme de notre émission. Il y a un tout dernier point dans votre enquête historique qui a donné lieu à votre livre, donc Les maîtres de la manipulation, un siècle de persuasion de masse chez Talendier. Finalement, vous nous dites, il n'y a aucune femme dans l'histoire de la manipulation. Aucune femme parmi les maîtres de la manipulation. Comment l'expliquer, David Collomb ?
Je l'explique essentiellement par le fait que les métiers dans lesquels évoluent les maîtres de la manipulation sont des métiers essentiellement masculins ou qui connaissent une forme de domination masculine au XXe siècle. Je songe bien évidemment au cinéma, mais aussi à la publicité, à la communication politique. Aujourd'hui, les patrons des grandes sociétés de la Silicon Valley sont tous des hommes, à commencer par Mark Zuckerberg. Mmh. Et donc, jusqu'à présent, il n'y a pas eu de grandes manipulatrices des masses, mais on peut souhaiter avant tout qu'il n'y ait plus de grands manipulateurs des masses du tout.
Bien, bah ça sera votre dernier mot, David Collomb. Un grand merci à vous
merci
pour
à
le
vous.
Travail historique que vous avez mené, tout à fait passionnant dans votre livre, dont je rappelle le titre « Les maîtres de la manipulation, un siècle de persuasion de masse », c'est chez Talendier. Ça nous donne un peu le frisson, mais ça nous donne à réfléchir. J'adresse un grand merci également à notre réalisateur, Pierre Samanos. Évidemment, vous pouvez retrouver cette émission ainsi que les références des livres de David Collomb sur le site de RCF et vous pouvez évidemment écouter cette émission, celles qui l'ont précédée, en podcast, en balado-diffusion, comme on dit. Merci à vous tous pour votre fidélité et je vous dis à la semaine prochaine.